Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et tout le monde, à demain et bonne soirée à vous. Nous on est parti, le 18-20 France Inter est ouvert, déploiement des toboggans et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs, on commence avec Amélie Perrier, le premier journal de la soirée. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi 9 octobre commence avec une offensive.
La Turquie lance une attaque militaire contre les Kurdes. Malgré les appels à la retenue, le président Erdogan frappe depuis cet après-midi le nord de la Syrie. L'Allemagne, victime d'une tuerie à Halle, une synagogue a été prise pour cible en ce jour de Yom Kippour. Au moins 2 morts et des assaillants en fuite. Le débat sur le projet de loi bioéthique s'enflamme à l'Assemblée nationale, jusqu'à présent plutôt consensuel. Les esprits des opposants s'échauffent alors que l'examen doit se terminer ce soir. Nous verrons aussi comment les clubs de sport sont un terrain de prédilection pour les prêcheurs radicaux au lendemain de l'audition du ministre de l'Intérieur sur l'attaque à la préfecture de police de Paris. Et puis 9 minutes pour vendre les 55 000 tickets d'un concert. Céline Dion l'a fait ce matin, un record de la diva québécoise. Le temps, ça se calme demain. Météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde aux États-Unis ce soir parce que clairement le président Trump est en pleine contre-attaque contre les démocrates qui veulent sa destitution. Il le fait sur Twitter. Ça, on sait, de manière particulièrement virulente. Demain, il le fait devant ses partisans. Très grand meeting, premier grand meeting depuis l'enclenchement de la procédure d'impeachment et on en parle ensemble. Le bruit du monde ce soir est en Pologne. Et puis deuxième heure, le téléphone sonne ce soir. Nous sommes en partenariat avec France 2 qui propose une soirée sur les ados et le porno. Et nous avons décidé de les entendre, les ados. Certains seront là en studio. On y va sans tabou. Qui regarde du porno, qui en parle à ses parents? Est-ce que ceux qui ont 15 ou 16 ans imaginent que la sexualité c'est ça? Est-ce que ça les perturbe? Est-ce qu'ils ont besoin de réponses que ni les parents, ni les profs, ni les animateurs ne peuvent donner? On en parle donc ensemble et avec eux, j'espère, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les mises en garde n'auront donc pas suffi à dissuader le président turc.
Recep Tayyip Erdogan a finalement lancé une offensive cet après-midi sur les milices kurdes installées en Syrie voisine. Les Kurdes, considérés comme des terroristes par le pouvoir turc. Et pourtant, c'est à ces combattants, en grande partie, que l'on doit la victoire sur les djihadistes de Daesh. D'ailleurs, depuis quelques heures, des États-Unis à la France, en passant par la Russie, tous essaient de dissuader Erdogan d'attaquer, en vain. Bonsoir Aurélien Colli.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Le président turc annonce sur les réseaux sociaux donc le début de l'opération Source de paix, c'est son nom.
Oui, source de paix pour un président turc affaibli chez lui, qui entend peut-être flatter les nationalistes en nettoyant, je le cite, le nord-est syrien de milices kurdes qu'il assimile aux séparatistes de son pays. Flatter aussi peut-être son opinion publique de plus en plus critique sur la présence des réfugiés syriens qu'il promet lui de réinstaller dans la zone de sécurité que cette offensive doit créer. Source de critique en revanche, quasi unanime, vous le disiez, des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, qui l'accuse de saper la solution pacifique à la guerre syrienne, qui se dessiner avec la création d'un comité constitutionnel avec pro et anti-Assad sous l'égide de Moscou. Critique aussi évidemment bien sûr des autorités kurdes qui ont dénoncé des premiers bombardements sur des zones civiles, Tal Abyad et Ras Al Ain, qu'ont quitté des militaires américains lundi et d'où les habitants fuient désormais. Les forces kurdes qui réclament aux occidentaux une zone de non-survol pour protéger les populations.
Et Aurélien, si les occidentaux, les Européens et la France en tête sont aussi inquiets, c'est notamment parce que les Kurdes retiennent prisonniers aujourd'hui les terroristes étrangers enrôlés dans Daesh.
Oui, il y a près de 100 000 combattants ou sympathisants de Daesh aux mains des Kurdes, les djihadistes dans des prisons, les civils dans des camps de déplacés où l'idéologie de Daesh prospère encore. Que va-t-il advenir de ces bombes à retardement si l'offensive turque mobilise des forces kurdes sur le front? Que vont faire aussi les Kurdes qui ont demandé en vain le rapatriement des Occidentaux et qui se retrouvent dans les faits abandonnés à leur sort face à la Turquie?
Aurélien Colli, le correspondant de France Inter en direct de Beyrouth. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni demain à huis clos, à la demande des Européens. Quant aux États-Unis, eh bien, le Congrès américain va faire payer très cher au président turc Recep Tayyip Erdogan son offensive en Syrie, a dit l'influent sénateur Lindsey Graham. La terreur et l'effroi aujourd'hui aussi, jour de Yom Kippour en Allemagne. Une synagogue a été la cible d'une attaque armée à Halle, dans le centre du pays. Puis un restaurant turc a essuyé des tirs. Au moins 2 personnes ont été tuées. Les assaillants se sont enfuis. Sur place, notre correspondant Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Ludovic, parle-t-on ce soir d'une attaque terroriste en Allemagne ?
Oui, dans la mesure où le parquet fédéral a repris cette affaire, il est désormais en charge de l'enquête. Il en est ainsi, Amélie, quand les affaires dépassent le cadre d'une seule région allemande comme celle de la Saxe-Anhalt ce soir, puisque cette affaire résonne de façon très grave en ce jour de Yom Kippour, le jour le plus important pour la communauté juive. Une terrible nouvelle, a dit le porte-parole de la chancelière Angela Merkel. La situation est encore confuse à l'heure où je vous parle dans ce quartier de Paulus. Un bloc d'immeubles fait l'objet de l'attention particulière des forces spéciales, casquées, armées, cagoulées. Elles fouillent les immeubles les uns après les autres à la recherche d'un suspect, peut-être le deuxième homme qui a participé à cette fusillade. Sur une vidéo prise par un habitant de ce quartier de Paulus et qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, on voit l'un de ses assaillants. L'homme porte un casque, il est habillé de vêtements kaki, d'une ceinture de munitions. On le voit faire feu, debout, calmement, en pleine rue, légèrement à l'abri derrière une voiture. On le voit même s'effondrer, puis rester quelques secondes à terre avant de remonter dans le véhicule et partir. Ces scènes se passent habituellement dans les grandes villes, me disait un riverain, mais pas dans ma ville, pas dans la ville paisible de Halle, me disait-il, choqué, lui qui attend de pouvoir rentrer chez lui et la fin de ses recherches dans ce quartier de Paulus.
Merci beaucoup, Ludovic Piétenu, en direct de Halle, en Allemagne, pour France Inter. Un nouveau coup dur pour l'opposant numéro 1 au Kremlin, en Russie. Les autorités ont classé l'organisation d'Alexei Navalny agent de l'étranger. Le FBK, cet organisme anticorruption, n'a de cesse de dénoncer les malversations des élites russes et leur train de vie. Les associations qualifiées agents de l'étranger sont soumises à de fortes contraintes administratives et financières et font l'objet d'une surveillance accrue. Le prix Nobel de chimie remis aujourd'hui aux inventeurs de la batterie au lithium, l'américain John Goodenough, 97 ans, c'est le plus vieux lauréat nobelisé de l'histoire. Le britannique Stanley Whittingham et le japonais Akira Yoshino. Les batteries au lithium-ion équipent aujourd'hui nos téléphones et nos vélos électriques. L'invention a révolutionné notre quotidien tant elle a permis de libérer nos appareils des énergies fossiles et polluantes. Mais aujourd'hui, cette utilisation massive du lithium a un coût environnemental. L'extraction de ce métal nécessite beaucoup d'eau et le recyclage des batteries pose encore problème.
On pensait la loi bioéthique sur des rails à l'Assemblée nationale.
Mais effectivement, avec les votes sans trop de difficultés de la PMA pour toute la procréation médicale assistée, ouverte aux couples de lesbiennes et aux célibataires, ou encore l'autoconservation des ovocytes par congélation, validée donc en première lecture. Mais les débats ont pris une tournure moins consensuelle ces dernières heures. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Vous suivez les débats donc à l'Assemblée. Ils sont censés se terminer ce soir, mais certains parlementaires viennent de saisir le Conseil constitutionnel pour demander davantage de temps de parole.
Et oui, pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 2013. Le débat sur le mariage pour tous s'était éternisé. 110 heures d'échange. Alors cette fois, la majorité a mis en place le temps programmé, maximum 50 heures. Chaque groupe est donc limité et les députés sans groupe ne peuvent maintenant plus s'exprimer. Emmanuel Ménard et ses collègues ont donc saisi le Conseil constitutionnel.
Les députés non inscrits avaient déposé en tout 347 amendements. Ils n'ont eu en tout et pour tout, je l'ai déjà dit, qu'une heure pour les défendre, c'est-à-dire, faites le calcul, 10 secondes par amendement. Cela s'appelle tout simplement bâillonner la parole qui vous dérange. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Et la droite aussi s'en plaint. 8 minutes de temps de parole pour les 8 derniers articles de ce projet de loi accaparé par la PMA, les députés Thibault Bazin et Patrick Hetzel.
Il nous reste le rôle des conseillers en génétique, la sécurité sanitaire de certains traitements, les missions de l'agence de biomédecine, la gouvernance de la bioéthique, la révision de la loi. Sans parler après de la deuxième délibération sur la GPA.
C'est une tâche indélébile que la majorité est en train de mettre sur les débats de bioéthique. Ce n'est pas sérieux. C'est scandaleux.
S'il vous plaît,
ça n'est pas à la hauteur des enjeux.
Circuler, il n'y a rien à voir, répond Gilles Legendre, le patron des marcheurs.
Nous savions parfaitement tous la règle. Et la règle s'applique de la même manière pour tout le monde.
Voilà, dans cette dernière ligne droite, tout est bon pour accentuer la pression, quitte à se victimiser un peu. Ces levées de boucliers mobilisent toujours bien les opposants au texte.
Maxence Lambrec, et pour l'heure, le vote solennel de ce texte conséquent, 32 articles, est prévu mardi prochain, le 15 octobre. Le sida recule au moment où le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme tentent de récolter 14 milliards de dollars à Lyon. Emmanuel Macron est attendu là-bas en début de soirée. Eh bien, l'agence Santé publique France publie ce chiffre encourageant. encourageant, le nombre de diagnostics a baissé de 7% l'an dernier. Environ 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2018. Parmi les explications, l'efficacité des traitements antirétroviraux, ils empêchent la transmission du virus. Et puis la PrEP, ce traitement préventif pour les séronégatifs qui auraient des rapports sexuels à risque. Les militants écologistes d'Extinction Rebellion occupent toujours la place du Châtelet en plein cœur de Paris. Ils se sont installés là depuis lundi pour réclamer des actes forts de la part des dirigeants politiques contre le réchauffement climatique. Ils ont également bloqué le McDonald's de la rue de Rivoli juste à côté. Des manifestations devant les préfectures d'Île-de-France également cet après-midi. Manifestations de sans-papiers car avant même d'obtenir leur sésame, ils n'arrivent même pas à décrocher un rendez-vous pour déposer leur dossier, y compris en ligne. Des avocats ont déposé des recours pour 50 étrangers ce matin dans plusieurs tribunaux administratifs. Rémi Brancato, vous étiez-vous ce matin devant celui de Montreuil en Seine-Saint-Denis?
Oui, ils sont une petite centaine devant le tribunal, militants, avocats et étrangers. Comme Fatoumata et Massangé, ces deux maliennes de 18 ans veulent déposer leur demande de titre de séjour, mais sur Internet, le site de la préfecture affiche complet, même la nuit.
On se réveille à minuit, au milieu de la nuit, 1h, souvent 2h, 4h, 6h. On n'arrive pas à prendre de rendez-vous, ça nous bloque. On est sans papier, les patrons ils ont peur de nous embaucher.
Je fais toujours tout le temps des captures d'écran et je ne suis pas découragée. C'est pour montrer qu'on essaie de prendre les rendez-vous, ça ne marche pas.
Des captures d'écran qui prouvent leurs difficultés. Selon l'association CIMAD, en Seine-Saint-Denis, aucun rendez-vous n'est disponible pour les demandes à titre exceptionnel.
Avoir un rendez-vous, pourquoi est-ce impossible ? On attend.
Les rendez-vous en ligne étaient censés remplacer les files d'attente, mais pour les avocats, le résultat est pire. Ils ont donc saisi les tribunaux pour plus de 50 étrangers sans rendez-vous depuis des mois. L'idée pour Laurence Roch du syndicat des avocats de France, c'est de forcer les préfectures à ouvrir des créneaux.
L'idée, c'est tout simplement l'épuisement des forces, c'est-à-dire que vous tentez de vous connecter, vous n'y arrivez pas, vous abandonnez. C'est tout à fait révélateur de la conception quand même libérale du service public, c'est-à-dire on n'offre plus de moyens, on dématérialise, on rend inaccessible. Donc au bout d'un moment, on abandonne l'idée même de revendiquer un droit.
Et selon les associations, un marché noir s'est même développé, la prise de rendez-vous se revend dans les cybercafés de Seine-Saint-Denis jusqu'à 300 euros.
Merci Rémi Brancato. Au lendemain de l'hommage aux victimes de la préfecture de police de Paris, et l'audition du ministre de l'Intérieur en commission des lois se pose toujours la question de la radicalisation et de la détection de dérives islamistes. Hier, Christophe Castaner a évoqué le sujet, en particulier dans le domaine sportif, un terrain de jeu privilégié par les prêcheurs de haine. Amaya Kazna, vous nous avez rejoint. Pour la première fois, le ministre dévoile des chiffres. Cette année, 127 contrôles ont été effectués dans des clubs sportifs, Amaya.
Oui, 127 contrôles un peu partout en France, dans 35 départements. Parmi les structures observées de près, les salles de sport de combat. De jeunes hommes y pratiquent la boxe, le très violent MMA. 42 ont fait l'objet d'enquêtes depuis le début de l'année. Même vigilance pour les clubs de tir avec 14 contrôles. Les autorités ne s'arrêtent pas là puisque depuis le début du mois de janvier, elles ont procédé à 5 fermetures d'établissements, prononcé 5 incapacités d'exercice et effectué une vingtaine de rappels à la loi. Le souci, c'est que ces lieux de radicalisation sont parfois clandestins. Des salles de musculation, de sport de combat ou d'arts martiaux qui ne sont référencés nulle part, qui n'appartiennent à aucune fédération, difficile à repérer et donc à fermer. Pour les identifier, les ministres de l'Intérieur et des Sports comptent sur la vigilance des citoyens, cette même vigilance évoquée par Emmanuel Macron lors de l'hommage aux 4 fonctionnaires tués dans l'attaque de la préfecture de police de Paris, mais aussi sur un réseau de référents. Depuis près d'un an, 150 personnes sont déployées dans les départements et les régions pour mener des actions de prévention de la radicalisation.
Amaya Kazna, merci.
Et on termine par votre immense déception, Amélie, ainsi que celle de nombreux fans de Céline Dion.
Oui, immense déception. Tous les billets pour les 7 concerts de la star canadienne l'été prochain ont été vendus en seulement 1h30. C'est un record. Ça représente 200 000 tickets pour les soirées de fin juin, début juillet 2020 à Paris, la Défense Arena. C'est un partenariat France Bleu. L'affluence est encore plus impressionnante pour le concert prévu au Vieilles Charrues, le Festival Breton, en juillet prochain. Il n'aura fallu que 9 minutes pour écouler les 55 000 billets. Céline Dion superstar, elle bat le précédent record de Bruce Springsteen. Comme nous le raconte Jérôme Tréhorel, le directeur des Vieilles Charrues, joint par Mathieu Culeron.
C'est stratosphérique, quoi. C'est 9 minutes, tous les billets partis sur Internet. C'est du jamais vu dans l'histoire des charrues. Pour Bruce Springsteen, alors à l'époque, si on met en contexte, c'était en 2009, donc il n'y avait pas la billetterie en ligne, les réseaux sociaux, etc., comme il y a aujourd'hui. On avait à l'ouverture de la billetterie, en janvier, de mémoire, on avait vendu 25 000 billets. C'est la première fois que tout part en quelques minutes. C'était assez déroutant, mais c'était surtout de pouvoir proposer ce concert à un tarif, même si on a augmenté un peu le prix d'entrée par rapport à d'habitude, à un tarif très accessible. Et aujourd'hui, le billet était en vente à 59 euros. Je pense que c'est le billet le moins cher de toute la tournée mondiale de Céline Dion.
On n'est pas d'ici.
D'être au moins roi. Oui. C'est ma prière païenne.
Oui, oui.
Ma prière, pour, c'est de trouver des places.
C'est
peut-être.
Ma prière pour te garder. Ça veut dire que vous allez revenir donc, dans
j'irai
un jour dans le monde.
J'irai où tu iras, Fabienne.
C'est ça.
Même sous les radars.
Enfin, c'est pas qu'importe le lieu, qu'importe l'endroit, c'est ici, dans le studio de France Inter.
Que tu allez, m'aimes encore.
Ce soir, nous sommes également à tout à l'heure, Amélie. Ce soir, nous sommes également aux États-Unis où le président Trump s'apprête à un grand meeting pour galvaniser ses troupes. C'est le premier grand meeting depuis le début de cette histoire d'impeachment. Le bruit du monde est en Pologne. Et puis, je vous remets le téléphone sonne dans l'oreille. Laissez parler vos ados ce soir. Laissez-les parler d'un sujet souvent tabou, d'un sujet qui vous inquiète, le porno. Nous sommes en partenariat avec France 2 qui consacre sa soirée au porno et nos ados. Nous avons, nous, décidé de les entendre, ces ados, quelques adultes aussi, bien sûr. Comment ils en parlent entre eux? Est-ce qu'ils s'en cachent? Est-ce que ça les choque? Est-ce que leur entrée dans la sexualité leur semble bouleversée? La parole aux ados, donc, c'est ce soir au 01 45 24 7000. Sinon, le temps est encore maussade. Hélas, c'est la kélos, Sébastien Léas.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et en même temps, on va vers une amélioration.
Effectivement, oui, lentement mais sûrement, le temps va devenir plus clément jusqu'en fin de semaine. Le début de journée sera quand même parfois assez nuageux. Demain, avec des plaques de grisaille entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et le Berry. Et également des averses résiduelles au nord de la Seine et sur le quart nord-est. Ciel chargé également entre la Loire-Atlantique, le nord de l'Aquitaine et l'Auvergne. Mais les pluies seront faibles et localisées. Ailleurs, les éclaircies seront plus nettes. L'après-midi, les premiers signes de l'amélioration se feront ressentir avec un temps moins nuageux et des éclaircies plus franches dans l'ensemble. Hormis près de la Manche où le ciel va s'ennuager, on gardera tout de même un risque d'averse près des frontières nord et les nombreux nuages lâcheront encore quelques gouttes entre la Vendée, le Poitou-Charentes, la Bourgogne et l'Auvergne. Le pourtour méditerranéen profitera, lui, du soleil toute la journée, mais avec beaucoup de vent, notamment sur le nord de la Corse.
Et sinon, les températures montent.
Oui, l'ambiance était un peu fraîche depuis quelques jours, mais la fin de semaine s'annonce nettement plus douce. Dès demain, les maximales retrouveront des valeurs de saison. 16 degrés en plaine d'Alsace, 17 degrés au Havre, à Valenciennes et à Limoges, 18 pour Paris et Dijon, 21 degrés à Agen et jusqu'à 24 degrés à Bastia et Toulon.